L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est Marie-Claude qui vous reçoit pour ces échos de la solidarité internationale. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir Alice Grinan, responsable de la communication du CARI. Bonjour Alice.
Bonjour.
Voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que Alice va nous parler d'un vaste programme concernant le souci qui devient le souci mondial, hein, du changement climatique, de la désertification, voilà. Et donc, Alice, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu à la fois votre fonction dans le sein du CARI et puis nous parler de cette organisation? Comme si on ne la connaissait pas.
Très bien. Merci. Vous l'avez dit, Alice Grinan, chargée de communication au CARI. Donc, le CARI, c'est le Centre d'Action et de Réalisation Internationale, une association basée à Viols-le-Fort, qui existe depuis maintenant 1998, donc depuis bientôt 25 ans.
Un peu plus fort.
Sa mission est vraiment... axé sur la lutte contre la désertification. Donc la désertification, c'est quoi? C'est en fait la dégradation des sols dans les zones arides. Alors d'un point de vue français, on pourrait croire que c'est un peu un phénomène un peu qui concerne peu de personnes, mais c'est quand même 2 milliards de personnes dans le monde qui sont concernées. Alors il y a différentes causes évidemment à ce phénomène de désertification. Mais il y en a 2 majeures qui sont identifiées, qui sont donc le changement climatique, comme vous l'avez dit, et les activités humaines. Donc, pour lutter contre ce phénomène, le CARI promeut le développement rural dans les zones arides, et donc notamment des pratiques agricoles durables, par le biais de l'agroécologie notamment. Donc, en termes d'action, en fait, il va vraiment miser sur 2 échelles d'action, on peut dire. Très locale, donc de soutien à la mise en œuvre d'initiatives locales ancrées dans les territoires. Donc je dis bien de soutien, on ne fait pas à la place des gens.
Tout à fait, ça c'est ça qui est très intéressant, hein. C'est d'arriver vraiment en soutien pour leur permettre justement de perpétuer, hein, de continuer ce qui a été initié grâce à un soutien ponctuel.
Tout à fait. Et pour complémenter, en fait, ce type d'action va venir une action plus globale qui est le plaidoyer. Donc, le plaidoyer, c'est vraiment d'influencer les politiques mises en place. Et donc, voilà, et aussi d'accompagner, en fait, ces politiques. Alors, en ce qui concerne plus ma fonction, donc chargée de communication, c'est assez large. C'est autant les communications... on va dire sur les réseaux sociaux, par exemple le site web, en fait, faire connaître les activités du CARI et également dans les différents projets d'accompagner les partenaires pour la mise en œuvre d'une communication également.
Voilà, pour les soutenir un petit peu. Parce que c'est vrai que quand on est dans un pays assez démuni où la lutte des gens, c'est plutôt pour la survie ou pour... on n'est pas toujours branché sur ces histoires-là. Et c'est vrai que c'est très... Actuellement, comme vous dites, dans les plaidoyers, tout ce qu'il peut y avoir, c'est essentiel, c'est très important. Hein, donc vous êtes là pour favoriser tout ça.
Tout à fait. Et dans le même sens, en fait, le CARI travaille beaucoup sur le travail en réseau, en fait. C'est vraiment un de ses axes majeurs, c'est vraiment la mise en réseau et l'échange, en fait. Donc, il coordonne plusieurs réseaux et il fait partie aussi de nombreux réseaux. On peut citer le GTD, le groupe de travail sur la désertification, qui est un réseau d'acteurs français qui œuvrent autour de la désertification. Et en fait, l'idée en fait, derrière ces réseaux, c'est vraiment que de ce travail en concertation se dégagerait une plus grande efficacité en fait, des actions et que chaque acteur va pouvoir renforcer en fait, l'autre. Donc c'est vraiment du renforcement mutuel des capacités.
Donc une vraie collaboration, hein, une vraie collaboration entre les différents acteurs, avec ceux qui effectivement ont un certain savoir-faire et entre autres, par exemple comme la vôtre, dans tout ce qui est communication, et ceux qui ont le savoir-faire sur le terrain et qui ont besoin d'une mise en œuvre de tout ça, quoi. Donc en fait, ce que vous disiez aussi, c'est les plaidoyers, et c'est vrai que quand on étudie un petit peu toutes ces grandes causes actuelles, ces grandes causes humanitaires, je dirais. Je pense en particulier, par exemple, moi je connais bien entre autres la lutte contre le sida parce que je fais partie des premiers acteurs d'aide, par exemple au Burkina Faso. C'est bien à travers ça, c'est bien dans ces grands plaidoyers ou dans ces c'est là où il y a vraiment un savoir-faire important pour pouvoir remporter des succès dans ces causes-là, pour pouvoir venir en appui. Puisqu'actuellement, ce sont des grosses organisations, c'est des gros budgets, c'est des grosses entreprises. Et voilà, et si on n'est pas... Et alors, on comprend bien que dans ces pays-là, forcément, tout le monde n'est pas surdoué ou n'est pas équipé pour... Et donc, le CARI, effectivement, vient en appui à tous ces acteurs-là. Vous disiez qu'il venait. Bon, il y a les différents types d'actions. C'est le plaidoyer. Ensuite.
C'est le soutien à la mise en œuvre de projets.
Voilà, sur place, alors, voilà, sur place. Et il n'y a pas que sur place, je crois aussi. Il y a des gens aussi qui viennent se former en France, non?
Le cadre de certains projets.
De certains projets, voilà.
Tout à fait.
Parce que je disais ça parce que moi, j'ai eu connu, entre autres, des Africains, des Burkinabés, qui étaient des ingénieurs, etc., qui souhaitaient vraiment perfectionner et justement bénéficier déjà de toute cette ouverture aux techniques qui venaient se former, voilà, et qui étaient d'ailleurs très touchés de l'accueil et de pouvoir justement se perfectionner dans différents secteurs. Donc... On n'a pas dit tout à l'heure où se trouve le CARI, en fait.
À Viol-le-Fort.
Voilà, Viol-le-Fort, qui est un petit village qui est d'ailleurs assez mythique. Je dirais qu'il est devenu encore plus avec la présence du CARI, tout proche de Montpellier et en même temps suffisamment loin sur les terres pour pouvoir permettre d'avoir une bouffée d'oxygène et à tous les gens qui peuvent s'y présenter. Donc... Le CARI, j'avais lu aussi une profession de foi que j'ai beaucoup aimée, c'est le CARI qui croit en l'humain et en sa capacité d'agir pour changer le monde. Tout son travail est fondé sur la mise en réseau et l'échange. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne me prends pas pour le roi du monde, mais au contraire, j'ai bien conscience que ce que je peux apporter à l'autre va lui permettre au contraire d'être à sa juste dimension. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait parler quelques instants de ce qui s'est passé, puisque nous avons eu, au mois de décembre, nous avons eu le fameux sommet Afrique-France, qui a quand même réuni pas mal d'acteurs, et je crois que, justement, ça a permis au CARI, vous pouvez nous en parler un petit peu de ce qu'a pu faire le CARI par rapport à ça?
Oui, alors assez brièvement, parce que...
Oui, non, mais brièvement, mais c'est juste un rappel des faits.
Le CARI était présent au sommet Afrique-France. Après, il n'a pas nécessairement pris la parole là-bas, mais en marge du sommet Afrique-France, il a été quand même très actif pour faire valoir la place en fait, de la société civile dans la Grande Muraille Verte, donc cette initiative qui vise à la restauration des terres au Sahel, donc du Sénégal à Djibouti. Et donc pour que vraiment en fait, la société civile soit prise en compte, en fait, qu'elle puisse faire des propositions pour la mise en œuvre de cette initiative. Et donc, en fait, l'idée, c'est que les bailleurs, donc ceux qui financent en fait cette initiative de la Grande Muraille Verte, intègrent les propositions des ONG, notamment, et des scientifiques et de tous les acteurs en fait de la société civile, puisque ce sont eux les mieux placés au final pour savoir qu'est-ce qui sera le plus efficace, puisque ce sont eux qui sont sur place.
Et oui, normalement, c'est comme ça que ça devrait se passer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, bon, c'est une des vertus du CARI, justement. Alors, cette grande muraille verte, ça me fait chaud au cœur qu'on en parle, parce que c'est un peu, c'est un sujet à la fois assez extraordinaire et en même temps qui a vu naissance officiellement, hein, parce que ça avait été repensé. Et ça a été à l'initiative de l'Union africaine pour la lutte contre la désertification et par rapport au changement climatique. Et ce projet avait débuté en 2007. Nous sommes en 2022. Donc, régulièrement, c'est vrai, comme vous disiez, que ça part de Dakar et ça doit arriver à Djibouti. Donc, si on regarde sur la carte d'Afrique, c'est assez impressionnant d'ailleurs, parce que c'est un genre d'écharpe verte, justement, cette grande muraille qui arrive, qui traverse comme ça l'Afrique d'est en ouest ou d'ouest en est. Et c'est quelque chose, quand on en parle avec les personnes concernées, les Africains, oui, mais régulièrement, il y a des arrêts, il y a des stops, parce que c'est un sujet très ambitieux qui, effectivement, fait appel à diverses nations, en sachant combien c'est pas toujours facile dans des conditions actuelles, aussi politiques, etc., de s'entendre entre les pays. Mais c'est quand même quelque chose, enfin, moi, ce que je trouve extraordinaire dans cette histoire-là, c'est que c'est pas mort, quoi. Ça continue. Ah, on sait pas trop où ça en est. Ça a fait quelques milliers de kilomètres, mais loin du compte encore. Donc, voilà, on attend. Mais la Grande Muraille Verte, voilà, elle existe et on espère qu'elle va aller jusqu'à son terme. Et en tout cas, merci au CARI d'avoir été aussi cet interlocuteur-là qui a pu, à l'occasion de ce sommet, parce que c'était un peu pour ça, hein, c'était pas que pour les prestations ou des concerts ou je sais pas quoi, qui a pu quand même donner la parole, un petit peu rappeler ce projet qui reste si important et de rester le porte-parole de cette initiative-là.
Mais d'ailleurs, si je peux me permettre, ce travail se poursuit au sein du CARI, en tout cas de faire valoir la société civile dans la Grande Muraille Verte, et ce sera notamment une des choses qui sera portée à la COP, qu'on va peut-être parler voilà, un peu plus tard, en tout cas cette année, voilà. Sera portée.
Eh ben merci Alice, parce que justement, j'en parlerai à mes amis africains quand nous en parlerons, qui ne savent pas trop, qui ne sont pas dans le milieu. Je leur dirai que c'est en bonne voie, en tout cas que c'est toujours actif au sein du CARI. Donc si vous voulez, on va faire une petite pause musicale, n'est-ce pas? Voilà, c'est le premier morceau que vous avez choisi, qui d'ailleurs a donné lieu aussi à une super vidéo, je suis témoin, qui est donc c'est Mundi Vago, le groupe un titre qui s'appelle Tafouk Nakaliet, alors je ne sais pas le traduire, et donc vous voulez nous en dire un mot de ce morceau?
Oui, tout à fait. En fait, donc, le groupe Mundi Vago est un groupe de la région, oui. Et en fait, cette musique a été créée dans le cadre d'un des projets du CARI, en collaboration avec des Touaregs du Nord Mali, donc avec pour objectif de sensibiliser les jeunes à la gestion durable des terres.
Superbe, donc si vous avez l'occasion, Tafouk Nakaliet de Mundi Vago à écouter, mais si vous pouvez voir la vidéo, c'est encore mieux.
Tafouk Nakaliet, je n'ai pas connu la soudure quand la pâture vint à manquer. Quand chacun rêve de verdure, les yeux vers le ciel sont rivés. Sur la montagne aux écritures, les anciens ont représenté les temps jadis sous la nature, foisonnés dans le ténéré. Jamais rien ne dure à jamais, il faut lutter main dans la main pour repousser l'ogre affamé, car ton désert sera le mien. Nous avons tous le même soleil, Tafouk Nakaliet.
Voilà, chers auditeurs, je vous retrouve après cette jolie pause musicale qui est vraiment très évocatrice d'un travail de collaboration entre le CARI, que représente mon invitée Alice Grignan du jour, et les pays concernés par la désertification. Voilà, et donc Alice, je peux peut-être dire, me permettre de dire rapidement ce que vous m'aviez dit, un petit peu, vous m'avez confié, c'est qu'il vous semble que là, récemment, à la
One Planet,
voilà, où est allé notre président, Emmanuel Macron, il aurait, alors on dit tout ça, voilà, il aurait annoncé quand même une relance, entre autres budgétaire, de la Grande Muraille Verte, qui est quand même un sujet essentiel pour l'avenir de la planète aussi, d'ailleurs, je dirais, et de l'Afrique en particulier. Voilà, on va dire qu'on croise les doigts pour que ce soit pas une fake news, mais quand même, ça semblerait pas, parce que c'est pas un sujet à fake news. Et voilà, on va se dire que ça, on y croit. Et donc, maintenant, je pense que vous souhaitiez nous parler, et nous souhaitons d'ailleurs entendre, nous parler donc de cette fameuse COP 15 qui va débuter.
C'est en mai.
Voilà, à Abidjan. Cette COP 15, qui est justement une COP qui n'est pas celle dont on entend parler régulièrement, mais qui est une COP beaucoup plus spécialisée. Vous allez nous rappeler un petit peu ce que ça représente, ce que ça veut dire. La COP 15.
Oui, tout à fait. Du coup, COP, c'est donc conférence des parties. Donc les COP sont assez connues par celles qui concernent en fait la convention sur les changements climatiques.
Tout à fait.
Sauf que ce qu'on sait moins, c'est que au sommet de la Terre à Rio en 92, il y a trois conventions en fait qui ont été actées à ce moment-là. Donc c'est donc la convention cadre pour les changements climatiques, la plus connue. Il y a également celle de la biodiversité, qui est un peu moins connue, mais déjà un peu plus que celle de la désertification. Et la troisième, c'est celle, donc la convention de lutte contre la désertification. Et donc là, cette année, c'est la COP 15 de la convention de désertification. Donc lors de ces COP, en fait, il y a la quasi-totalité des pays qui participent. De mémoire, ce sont 196 pays qui ont signé la convention de désertification. Il me semble avoir lu que c'était celle qui avait été la plus ratifiée parmi les trois.
Oui.
Voilà, ils se réunissent tous les deux ans, il me semble, pour vraiment prendre en fait de nouvelles orientations ensemble, donc les discuter et les décider sur les moyens d'agir en fait pour atteindre les objectifs de lutte contre la désertification. Donc après, cette convention s'intéresse particulièrement à l'enjeu de la sécheresse, qui en plus est quand même de plus en plus intense et se fait de plus en plus sentir. Donc, sur la sécheresse, tous les États, en fait, ont déjà des moyens d'action en réponse aux sécheresses, mais n'ont pas nécessairement des actions de prévention. En fait, ils ont des actions de réaction lorsque la crise est déjà là. Donc, en fait, l'enjeu en ce moment, c'est vraiment de mieux anticiper les sécheresses pour passer de la réaction à la prévention. Donc, ça peut aller de la préparation à l'agriculture, à la gestion de l'eau, par exemple. Donc voilà, donc là, c'est un peu l'enjeu de cette COP.
Gros enjeu.
Tout à fait, oui, c'est pas...
c'est pas petit, comme on dit au Burkina. C'est pas petit.
Ça va pas être résolu du jour au lendemain, c'est sûr. Donc à la COP, ce sont évidemment donc les États et les décideurs politiques qui s'y rendent. Mais évidemment, les organisations de la société civile ont un rôle important à jouer. D'ailleurs, la convention de désertification est celle donc, des trois conventions que j'ai citées où la société civile a eu le plus d'influence, en fait, où la société civile est le plus prise en compte. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, le rôle en fait, de la société civile dans ces COP, ça va être d'orienter les décisions prises, mais aussi... parce qu'en fait, il faut savoir que les décisions prises lors de cette COP ne sont pas contraignantes. C'est-à-dire que il n'y aura aucune conséquence si les États ne mettent pas en œuvre ensuite les décisions prises. Donc en fait, les organisations de la société civile ont vraiment un rôle d'accompagnement des décisions politiques pour que vraiment les pouvoirs publics mettent en œuvre en fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est aussi important que les organisations de la société civile soient là pour pouvoir ensuite accompagner correctement cette mise en œuvre.
Voilà, qui revendiquent vraiment leur rôle et puis qui le justifieront par leurs actions, quoi. Donc cette COP est vraiment très importante et donc le CARI, là, c'est quoi ?
Ah oui, tout à fait. Donc là, le CARI, cette année, ouais, j'ai mis trop de contexte, mais...
Oui, c'est donc, parce que c'est tellement vaste, voilà.
C'est vrai. Et donc, donc pour organiser ce plaidoyer, en fait, le CARI, actuellement, coordonne des ateliers nationaux dans une vingtaine de pays. Donc, ouais. Les partenaires du CARI organisent ces ateliers nationaux. Donc, ça peut aller du Mali, Sénégal, mais aussi Brésil, Inde, Afrique du Sud, pour vraiment avoir des remontées, en fait, des différents pays. Donc, sur un plaidoyer autour de l'agroécologie, notamment. Donc, il y a également une grande consultation en ligne qui est mise en place. Il y aura un webinaire... Pour vraiment avoir un retour le plus large possible de la société civile, donc que ce soit des ONG, scientifiques, organisations paysannes, pour ensuite pouvoir aller porter en fait, ce plaidoyer à la COP. Mmh.
D'accord, donc c'est un vaste programme qui est mis en œuvre et qui concerne le monde entier. C'est vrai que quand vous dites, là vous parlez aussi du Brésil, enfin toutes ces régions aussi qui sont quand même menacées, hein, donc c'est important. Et puis on voit bien ici le rôle aussi du CARI, quoi. Voilà, donc j'ai vu que vous l'aviez lancé de... Donc il y a toutes ces activités et vous faites des appels à projets, des choses comme ça, non ?
Non. Enfin, il y a vraiment ces ateliers qui sont mis en place par les partenaires dans les pays pour vraiment animer des ateliers d'échange, pour faire remonter vraiment des idées de plaidoyer. Alors, c'est autour de l'agroécologie, on a dégagé 8 thèmes. Mmh. Alors, il y a la sécurité alimentaire, la dégradation des terres, le climat... La biodiversité, je ne vais pas vous citer les 8 têtes. Oui, non, mais
on peut, de toute façon, pour aller sur le site, vous le donnerez tout à l'heure l'adresse pour se renseigner, parce qu'il y a énormément de choses. Mais enfin, bon, donc on va dire quand même que le CARI est aussi un booster de tous ces événements-là. C'est-à-dire, il y a du petit village à côté de Montpellier, après à toutes ces participations, et notamment à la COP d'Abidjan. Voilà, je pense que quand même, on peut justifier de toutes vos actions. Alors, ce que je vous propose, c'est encore une petite pause musicale, donc le temps que vous repreniez votre souffle, parce que vous avez beaucoup de choses à dire. Et là vous nous avez proposé un très beau morceau chanté, une très belle voix, Fatoumata Diawara, Timbuktu Fatsou. Voilà, à tout à l'heure.
They banned everything. So we hope with music, with God's help, all these things will finish one day, because Africa doesn't need this anymore. We want a better future. We want to be free. Freedom. Freedom must come now. We want to be free. Timbuktu.
Avec cette très belle foi, on lui dit au revoir, tant pis, on est obligé de vous serez obligé d'entendre nos voix, n'est-ce pas, Alice? Alors, qu'est-ce que vous aimeriez nous dire donc à la fin pour nous restituer un petit peu et nous attirer l'attention sur ce qui est encore organisé par le CARI?
Oui, alors tout à fait. Et bien, c'est encore dans le champ de mire de la COP. En fait, en fin d'année, le CARI organise Désertif Action, donc du 5 au 8 octobre à Montpellier, dont l'objectif est vraiment une restitution des décisions qui vont être prises à la COP. Et de produire une feuille de route pour que les États tiennent leurs engagements. C'est le rôle d'accompagnement des pouvoirs publics que je mentionnais plus tôt.
D'accord.
Donc, c'est encore... le programme n'est évidemment pas encore défini. On espère 300 personnes donc, du monde entier, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, des organisations de la société civile, où ce sera 3 jours d'ateliers et de travail. mais il y a également un rôle de sensibilisation à cet événement pour donner de la visibilité pardon, à l'enjeu des terres en zones arides. Donc il y aura également des activités grand public le samedi 8 octobre, donc des concerts, des conférences. On envisage peut-être d'organiser une marche. Je sais qu'en 2015, Désertification avait déjà eu lieu à Montpellier.
Je m'en souviens, oui, j'étais allée, oui. Oui.
Et ben, on espère
peut-être. Très belle expérience, oui.
Pour faire voir la cause.
Il y avait eu du succès, d'ailleurs, il y avait eu du monde aussi. Donc ça, quand même, ça attire du monde, y compris du public profane comme moi, par exemple. Voilà.
Et ben, on espère une belle réussite cette année aussi.
D'accord.
Donc voilà, si vous voulez des infos sur cet événement, c'est désertif.action.org. Donc désertif, le tiret du 6... action au pluriel.org. Et sinon, le CARI a également un site web.
CARI... Oui, ça sera bien, oui, parce que là, il y a beaucoup d'informations.
Oui, tout à fait. Ouais, j'ai... Ouais. CARIAssociation.org.
CARIAssociation.org. Donc, écoutez, avec tout ce programme-là, on va voir, il y a toute cette part à laquelle nous ne participerons que par information, et peut-être en allant aussi régulièrement sur votre site. Et puis, il y a quand même ce désertification qui aura lieu à Montpellier. Donc, c'est vrai que Montpellier est une ville de tradition. On voit bien, il y a des pôles agrologiques, agronomiques, etc., très importants, et que le CARI, très justement, se trouve là aussi. À côté, et nous allons essayer d'aller aux désertifactions et de se tenir bien au courant. En tout cas, merci beaucoup Alice de votre présentation, de votre première émission. C'était super, franchement, il n'y a rien à dire. On vous recevra sûrement une autre fois, peut-être
avec
pour
plaisir.
Représenter au mois d'octobre désertifactions. Et voilà, bon. Et donc, moi, j'ai quelques événements à présenter encore dans le cadre donc, de nos échos de la solidarité internationale. Notamment, donc, le 16 février, si je ne m'abuse, c'est mercredi, c'est après-demain. Le 16 février à 19h à la Carmagnole, 10 rue Haguenau, c'est dans le quartier... c'est pas loin du Pérou, un petit peu en dessous du Pérou. Rue Haguenau, c'est assez connu, la salle de la Carmagnole. Donc, une conférence qui s'appelle « Pour la levée des brevets face à la pandémie Covid-19, il est urgent de faire des vaccins dans un but en partageant humaniste, quoi. » Et donc, c'est une conférence qui est donnée par Bruno Percebois, qui est médecin et syndicaliste à la CGT, et qui nous expliquera peut-être comment on peut exiger cette restitution au public. Alors, je vous rappelle, pour le 17 février, donc jeudi, notre Gazette Africa de 14h30 à 17h30, qui est donc coproduit entre l'association Maya et la radio FM+, et qui traitera d'un sujet vraiment passionnant et peut-être urgent dans le monde, pas qu'en Afrique d'ailleurs. Ça s'appelle la presse en Afrique de l'Ouest, singularité et limite de sa liberté. Et nous aurons la chance d'avoir avec nous donc Thibaut Bluis, qui réside actuellement à Montpellier, qui est l'auteur du livre, d'un livre qui a été primé, qui s'appelle « L'observateur Toubabou », un reporter français au Burkina Faso. Il est journaliste et donc il a travaillé plus d'un an à la suite des événements et durant des événements importants au Burkina Faso, donc il témoigne. Et nous aurons en duplex, sinon en vidéo, Arnaud Ouédraogo, qui est aussi un journaliste et qui est coordinateur de la cellule Norbert Zongo, l'investigation, les radios d'investigation et la protection de l'investigation en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et ensuite, et pour finir, donc, je vous signale ça, c'est les 24 et 25 février, donc la semaine prochaine, à Agropolis International et la chaire UNESCO Alimentation du Monde. Il y aura deux événements. Alors le premier, le 24, donc, c'est un séminaire scientifique autour de l'agroécologie. Donc le titre, c'est « Refonder notre alimentation et notre agriculture ». Vous voyez qu'on est dans la continuité de ce que nous venons de dire avec Alice tout à l'heure. « Les raisons d'y croire, les blocages à lever ». Et ça, nous savons que nous pouvons maintenant compter, entre autres, sur le CARI. Donc merci au CARI aussi. Et donc le vendredi 25, il y aura une table ronde grand public aussi, au MOCO, la Panacée, à l'auditorium donc, du MOCO, la Panacée, 14 rue de l'école de pharmacie à Montpellier. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine à tous. Et puis merci à la technique, à Stéphane et à tous ses acolytes pour l'accompagnement de l'émission. Et à la semaine prochaine. Au revoir.